Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de La Croche-Oreille. C'est Gaétan Gosselin, Jean-Pierre Gay avec vous, comme à chaque semaine, depuis déjà le début du mois de janvier. Et ce soir, nous allons vous parler d'Alexis O'Hara, en fait, qu'on a rencontré, Gaétan et moi. Mais avant de vous parler d'Alexis, vous rappelez que vous pouvez toujours consulter notre site internet www.lacrocheoreille.wordpress.com pour voir tout ce qui se passe. De même que si vous avez le goût de passer vos commentaires sur ce que vous entendez en ondes, sur ce que vous aimeriez entendre en ondes, ben on a un site aussi, on a aussi une adresse courriel crocheoreille dans un seul mot @gmail.com. Alors, Gaétan, on a eu un grand plaisir de rencontrer Alexis O'Hara, une jeune artiste de Montréal qui était présente au Mois Multi.
Jeune, puis active depuis tout de même plusieurs années.
Oui, c'est moi quand je dis jeune, que veux-tu?
Oui, tout à fait.
C'est mon grand âge qui parle.
T'as bien raison, mais une artiste tout de même qui a un parcours assez impressionnant depuis plusieurs années. On la connaît dans le monde musical montréalais pour des prestations de musique qui sont, je dirais, marginales. Puis à la fois très, très campé sur des styles de musique, je dirais improbables.
Oui, puis elle est aussi très engagée. C'est aussi une artiste qui a un propos, même si dans ses chansons, ça ne paraît pas toujours dans son travail, mais c'est une féministe, c'est une femme qui s'affirme comme musicienne et qui prend sa place. On a eu d'ailleurs l'occasion, dans le cadre du Mois Multi, ça c'est une des belles... Le Mois Multi, une des belles initiatives, c'est de permettre à des gens de rencontrer ces artistes-là dans un cadre qui est tout à fait libre, où on peut échanger avec eux. Et moi, j'ai eu l'occasion de participer à la rencontre avec Alexis O'Hara, et ça a été vraiment intéressant de l'entendre parler de son engagement, tant dans la musique que dans la condition des femmes. Et ça, je trouve que c'est important de le souligner.
Oui, puis il faut rappeler que c'était dans le contexte d'une installation qui était présentée par Alexis au Mois Multi, une installation qui s'intitule La Couvée. Jean-Pierre, tu me regardes en souriant, mais c'est le nœud, je dirais, de cette rencontre avec Alexis.
Et La Couvée, c'était vraiment une œuvre, vraiment, là, qui parlait de la femme qui est reproductrice, qui crée les enfants. C'était toute une série, appelons ça d'œufs ou d'ovules, qui était stylisée et qui reposait au-dessus d'un lit et d'une caisse de son. C'était une œuvre très poétique d'Alexis, qu'Alexis a proposé, qui détonnait un peu, je dirais, par son côté un peu artisanal à travers les arts multi qu'on...
Bien, ça nous permettait de constater à travers ce projet-là les deux facettes de la multidisciplinarité ou de l'interdisciplinarité des œuvres qu'on appelle low-tech, où la technologie prend un aspect plutôt subtil par rapport à ce qu'on appelle le high-tech, où là, on est carrément dans des nouveaux dispositifs où on va faire appel à des machines. Et on pense évidemment à ce robot qui était tout juste à côté de l'installation d'Alexis et qui donnait le ton, je dirais, sur la diversité des œuvres que les artistes inventent aujourd'hui.
Et les antipodes. On était aux antipodes. On était avec le robot qui touchait. Et cette œuvre qui était très érotique, très, très sensuelle, très féminine, qui était aux antipodes de ce robot. Enfin bref, on pourrait en parler longtemps, mais on va écouter Alexis tout de suite.
On y va avec l'entrevue.
Yes. Alexis O'Hara, bienvenue.
Merci.
Bienvenue à ce KRL, bienvenue à La Croche-Oreille. pour les gens de Québec, peut-être qu'Alexis O'Hara, ça ne dit pas grand-chose. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours, de ton... Tu viens du monde de la musique, de l'improvisation, mais de la performance. Puis on a ici, dans le cadre du mois multi, une installation. Mais parle-nous de ton travail en musique et en performance.
Je vis à Montréal et depuis plus ou moins l'an 2000, je fais une carrière artistique qui se base sur la voix et les manifestations différentes de la voix. Donc, avant 2000, je travaillais pas mal en spoken word, même en slam. Mm-hmm. J'ai tourné un peu aux États-Unis avec ça dans les compétitions nationales. Mais vers 2000, j'ai vraiment commencé à travailler l'improvisation performative, l'oralité improvisée avec des machines. Donc, ma première machine, c'était un processeur de voix. Après ça, est venu un sampler. Et quand j'ai commencé à travailler avec des loopers, c'est à ce moment-là que ça s'est un peu solidifié. Mm-hmm. De ce que j'ai fait pendant plusieurs années, c'était des performances plus ou moins improvisées où je construisais une trame sonore avec ma voix et les pédales. Et après, je racontais une histoire par-dessus. Si l'histoire était... Elle pouvait être assez narrative ou bien assez expérimentale aussi. Et puis, j'ai fait des mini-CD. Il y a un gars qui s'appelle Louis Rastelli qui a converti des machines à cigarettes pour vendre des objets d'art. Il y en a peut-être ici.
Oui, on en a deux ici, oui.
Puis, donc, le format du mini-CD, c'était assez inspirant. J'ai sorti pas mal de mini-CD expérimentales à thème. Mais bon, là, les gens, ils écoutent même plus des vrais CD. Il y a personne qui a des lecteurs pour écouter ces... Donc, j'ai comme des tiroirs pleins de merchandise qu'on peut rien faire rien avec, tu sais. Le deuxième disque, c'était sur l'étiquette de Michel F. Côté et Fabrizio mm-hmm. Gilardino A-Records. Et ça s'appelle Ellipsis. Et ça, c'était en... Oh my God, je sais même pas, 2011, ça se pourrait, 2010. Et ça, c'est de valeur. J'ai pas vraiment tourné ce disque. C'est un très beau disque. Il y a des pièces là-dessus en français, en anglais, en espagnol. Et j'ai travaillé très fort sur ce disque pendant longtemps. Et j'ai travaillé avec beaucoup de musiciens assez importants à Montréal. Et c'était comme sa qualité et son défaut parce que je pouvais pas. Ces musiciens-là n'étaient pas disponibles pour tourner. Puis moi, j'ai pas vraiment entrepris le projet de faire un band.
Trois fois, j'ai tenté de patiente. Chirurgienne prête à opérer. Trois fois j'ai tenté de nous bifurquer. Mettre une rame dans la trame, mettre un clou dans les genoux. Ah ou, ah ou. See how we fall like stars, buried alive in the sea. Chasing a love that scars. Can't you see? He loved me. Can't you see? He loved me. Trois fois j'ai
Dans le cadre du Mois Médicis, tu présentes une installation assez particulière qui fait référence au fait que une femme dans la moyenne va avoir 483 ovulations dans sa vie. Mm-hmm. Alors, tu es parti de ce sujet-là et ça t'a amené à faire une œuvre artistique mais qui est artisanale aussi en même temps. Parle-nous de ça.
Le projet a eu un début avec beaucoup de méandres, en fait. Mais la construction des œufs, au début, c'était du papier mâché. Je voulais faire des gros œufs, tu sais, et pour y loger des lumières et des haut-parleurs. Et après, faire les œufs en laine ou en autre tissu, c'était comme un espèce de... quelque chose à côté. Mais pour cette version ici, je me suis vraiment mis à fond dans la production de ces œufs faits en crochet, mm-hmm. et autres techniques d'aiguilles et mm-hmm. de fils. Et c'était un peu... C'est comme... Tu sais, moi, j'ai mes hobbies, j'ai mes obsessions. Je ne peux pas faire une chose à la fois. Tu sais, je ne peux pas regarder un film sans occuper mes mains. Donc, je suis rentrée dans le crochet assez à fond cet hiver. Et c'est vraiment autour de Noël que j'ai commencé à faire ces œufs. Et après ça, explorer les techniques pour essayer de les durcir. Mm-hmm. Et c'est mon ami et collègue Stephen Lawson qui les regardait. On partage un studio, puis il me disait, « Ouais, mais je pense qu'il t'en faudrait genre 150, tu sais. » Ça, c'était au début janvier, donc il y a un mois. Fait que j'étais comme, « OK, on va le faire. » Fait que j'ai eu beaucoup de nuits blanches. Et puis, à un moment donné, j'ai recruté des copines pour m'aider, puis on a fait des corvées. Mm-hmm.
À la Paris-Martin. Paris-Martin, ici à Québec, fait beaucoup de travail comme ça en faisant appel à des femmes, puis elles en profitent pour communiquer ensemble, parler ensemble de différentes choses, tout en faisant du crochet ou des...
Ben c'est ça, on faisait la blague de, tu sais, le sac des fermières, ben oui. Là, puis... Puis c'était comme, tu sais, c'est une gang de femmes urbaines qui ont. Bon, en fait, j'ai trouvé que pour recruter des gens là, des travailleurs bénévoles, les plus susceptibles, c'est les mamans, parce qu'elles cherchent une activité qui leur permettrait de quitter le foyer pour une soirée. Et donc, en fait, j'ai travaillé avec des amis qui sont mamans, mais aussi des amis qui sont artistes professionnels. Designer de mode, chanteuse, tu sais, donc des gens que c'est pas forcément naturel pour elles de s'asseoir et de faire du tricot ou du crochet, mais tout le monde a vraiment trippé, tu sais. Bon, il y a quelques personnes qui ont plus de talent que d'autres, mais je trouvais que c'était bien, tu sais, d'avoir des œuvres qui faisaient dur un peu aussi, parce que, tu sais, c'est pas toujours joli la féminité.
Je ne suis pas une des fidèles, ni pratiquante d'endurance, ancrée ici par une ficelle, éphémère de toute évidence. Et si je te disais tout ce que je pensais, et si je te donnais tout ce que j'ai à l'instant, je ne suis pas une des plus adeptes organisation de temps. De temps en temps, je me corrige. Zélé, fêlé, gelé, je le sais, c'est la vie. Disons-le en chantant, disons-le en dansant. Et si je te donnais tout ce que je pensais, ce que j'ai à l'instant, ça prendrait du temps.
Il y a du son là-dedans qui vient de ton installation. Ça vient d'où, ce son-là?
Beaucoup de places différentes, mais en faisant le projet, j'ai trouvé qu'il y avait un aspect très intéressant, sonore, à la construction des œufs. Donc, en fait, le côté artisanal avait ses traces auditives. Mm-hmm. Et donc, il y a des sons qui proviennent de ce processus-là. Donc, la colle, la viscosité de la colle, le ballon qui est en train de se gonfler, mm-hmm. le ballon qui est percé, qui se décolle du papier mâché. Et après, j'ai trafiqué ces sons-là. Il y a aussi de la musique, du ukulélé que je joue et que j'ai transformé. Mm-hmm. Un soir, quand j'étais en train de faire le papier mâché il y a quelques années, parce que c'est un projet qui a duré des années, en fait, c'était coucher de soleil et l'arbre à l'extérieur de l'atelier... est devenu envahi par des oiseaux. Les oiseaux, ils vont triper au coucher de soleil. Puis j'avais enregistré ça et après j'ai ralenti genre à 400%. Et puis ça donne vraiment comme un bruit d'éléphant ou presque comme un bruit qui est à l'extérieur et nous, on est très à l'intérieur. Donc j'avais pensé que ça me faisait penser à un son qu'on pourrait entendre si on était dans un corps et les sons ambiants. nier. Là.
Ben, tu t'as poursuivi d'une certaine manière par une performance que tu as faite en direct ici hier.
Oui.
Toujours en direct, une performance lors de l'ouverture des installations.
Oui.
Quelques mots sur cette performance-là. Il y avait une balloune, entre autres, si je me rappelle.
Oui, il y avait un ballon que je souffle dedans. Je la joue comme instrument, comme tambour un peu. Je frotte sur le caoutchouc, le latex. Et après, tout en trafiquant avec mm-hmm. l'aide de pédales mm-hmm. de guitare et faisant des boucles. Et après, je la gonfle jusqu'à temps qu'elle explose.
Alexis, je poursuivrai sur la performance, la couvée, toute la symbolique qui est reliée à la féminité. Ça donne le goût de te poser la question si c'est un travail qui est plus inspiré par la féminité qu'un travail féministe en tant que tel. Mm. Comment ça origine et puis qu'est-ce qui t'anime à travers ce projet-là qui est un projet. Ce serait difficile qu'un projet, un tel projet soit pensé par un gars.
Oui,
je dirais ça d'une certaine façon. Puis même la performance, il y a là toute une cohérence là, à la fois formelle puis philosophique dans la perf par rapport à l'œuvre. Et là, on se dit, bon, est-ce qu'elle est dans un champ d'art engagé ou pas? Et ça, ça reste tout de même ambigu.
Bien, c'est difficile pour moi de parler de la séparation entre la fémininité et le féminisme, parce que pour moi, c'est tellement lié. Il n'y a jamais eu de questionnement à ce niveau-là. Tu sais, c'est toujours pris pour acquis que tout ce que je fais, c'est un acte féministe. Et je crois que pour moi, le féminisme peut être quelque chose qui n'est pas revendicateur, qui est un état en soi, sans but politique. C'est vrai que c'est une pièce très féminine. Et pour ce qui est du féminisme, c'est dans l'œil du spectateur, je pense, parce que malheureusement, c'est un terme qui est mal compris et donc en fait, moi je m'éloigne pas de ça pour protéger les sensibilités de mon public là. Ça va toujours prendre de l'avant, mais c'est pas nécessaire d'écrire sur la pancarte ceci est une œuvre féministe. Tu sais, c'est pour moi il y a toujours un courant là-dedans pour parler de la femme et des particularités de la condition féminine, la condition féminine en sens de l'acte, l'être, mais aussi la condition physique du corps de la femme. Mm-hmm. Pour moi, c'est très étroitement lié au but du féminisme, c'est-à-dire d'avoir une visibilité dans le monde qui est très dominée d'une façon patriarcale.
Ben oui. Et ça peut même être drôle.
Tout peut être drôle.
Ta façon de travailler, moi, j'ai eu l'occasion de te voir sur une autre scène et c'était affirmé, puis de façon très comique. T'as aussi un côté drôle dans tes spectacles.
Oui, je suis clown, c'est vrai.
Goodbye.
L'âme d'un violon, oseriez-vous relever les empreintes digitales?
89.1.
C'est une buée. Elle vous dit des choses formidables. C'est de la très, très, très grande poésie. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de sophistication. Mais par contre, à d'autres moments, elle s'enflamme. Hein?
C'est KRL.
Et quand on parle du souffle, qui peut être violent ou qui peut le murmure d'une brise légère, c'est tout autre chose. On n'est pas dans la même ambiance.
Monono aware, une expression japonaise sans équivalent français qui décrit la poignante sensation du temps qui passe. Plus précisément, apprécie la tristesse de la vie.
Ça va être aujourd'hui.
Pourquoi tu dis ça?
Parce que je me sens revivre.
C'est le soleil qui perce à travers les nuages?
Ouais. Ça pue la liberté.
T'as raison. C'est une belle journée pour partir à l'aventure.
Une mise en scène de Marie-Josée Bastien et d'Harold Réaume, une création en complicité avec les étudiants. Du 22 février au 1er mars au Théâtre du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Pour information, 643-9833.
Écoutez tous les lundis 18h30 l'émission de littérature Les bouquins d'abord. Cette émission vous est présentée par la librairie Pantoute. Fondée il y a plus de 40 ans par des passionnés du livre, la librairie Pantoute n'a jamais cessé de grandir pour devenir l'une des plus importantes librairies de fonds au Québec. Avec maintenant 2 succursales et plus de 50 000 titres en inventaire, Pantoute vous offre une grande diversité de livres. Romans, essais, BD, jeunesse, poésie, théâtre. Des livres qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Pantoute, c'est aussi une trentaine de libraires qui lisent, se renseignent, mais surtout vous écoutent et vous informent judicieusement. LibrairiePantoute.com, un service conseil reconnu depuis 1972 et des milliers de livres testés sur des libraires.
Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
À Gaétan, deuxième demi-heure de l'accroche-oreille. Nous sommes toujours avec Alexis O'Hara, mais qu'est-ce qu'on vient d'entendre, là?
En fin de compte, en première partie, Jean-Pierre, on a constaté qu'on a pu écouter le volet chanson davantage que le volet sonore, bien qu'il y avait dans le premier segment de l'émission un extrait de la couvée qu'on a mm-hmm. pu entendre, cette installation. Mm-hmm. Et j'ai trouvé sur le web, comme souvent, une performance que Alexis a réalisée dans le cadre d'un festival de spoken word à Calgary. Et là, on retrouve, je dirais, l'artiste sonore, mm-hmm. la performeuse, mm-hmm. Chanteuse, et quelqu'un là, qui flirte vraiment avec la poésie sonore, avec les mots. Et ça donne le ton sur cette diversité qui est abordée par Alexis O'Hara.
Mm. Ben, en tout cas, c'était une belle découverte. Moi, je connaissais absolument pas ce travail-là. Ben, je pense qu'on va poursuivre avec l'entrevue. Alors, vas-y.
Dans le matériel que tu nous as fait parvenir, il y a une pièce en espagnol qui s'appelle, je pourrais pas te le dire en espagnol, mais 23 chromosomes. Ça a origine d'où, ça?
Ça sort d'un livre que j'avais trouvé, dans une espèce de station d'essence où il y avait aussi une vente de livres. Et c'était un livre qui s'appelait « Le corps de la femme ». Écrit en 1960 et il y avait tout un chapitre sur les chromosomes que j'ai utilisé comme inspiration pour une pièce improvisée que j'ai de suite travaillée. Et il y a une version française francophone qui existe mais qui n'a pas été enregistrée, et sur le disque j'ai la version anglaise et la version espagnole. Et donc ça part du fait que notre identité en tant que genre est déterminée par ses chromosomes, que c'est le père qui le détermine, mm-hmm. qu'en fait, dans l'espace de 8 semaines, ça peut être un ou l'autre, et qu'à un moment donné, le corps va se former et qu'il va avoir un espèce de destin biologique, mais qu'on vit aussi dans un monde où ce destin-là est on peut dévier le destin mm-hmm. Biologique.
On peut le contourner.
C'est ça, on peut le contourner.
Thank you.
Alexis, parlons du futur maintenant. Quels sont les projets dont tu peux parler maintenant?
J'ai tellement de choses, mais je voulais juste dire aussi que je suis très contente d'avoir eu la chance d'enfin monter cette pièce, mm-hmm. V, parce que j'avais fait une résidence à Recto Verso où j'ai fait une exploration qui était utile, mais qui était comme dans une voie que j'ai un peu abandonnée à un moment donné. Et d'avoir la chance de vraiment la monter et de dire, bon, la voici, elle est faite, c'est la chose. Ça va m'aider beaucoup et j'espère que les photos vont attirer mm-hmm. d'autres diffuseurs. Parce qu'on est, on est souvent dans une situation où on est en train de vendre un concept, vendre une idée, et c'est très difficile. Quand on a un vrai produit, c'est, mm-hmm. c'est plus facile de le vendre.
Ben oui.
Mais pour ce qui est de 2015, ce qui s'annonce, là, j'ai bien entendu plein de petits cabarets à Montréal, mais le gros projet, c'est un projet qui s'appelle Corde Red, que je travaille avec Two Boys TV, Radouane Mouvenet et Lucie Bazot. Et c'est un projet qu'on a monté déjà à Mexico et à Sao Paulo, à Toronto mm. et à Montréal. Et on va le présenter à la Biennale de la Havane au mois de mai. Mmh. Donc, c'est un projet théâtral, musical, avec collaboration communautaire. Donc, il y a beaucoup de... C'est un travail très impliqué et ouais, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec ça, avec des collaborateurs cubains.
Thank you.
Et à part ça, j'ai deux projets musicaux. 10,000 Horses, c'est un nouveau projet de musique que j'ai avec Stephen Lawson. Et c'est la chanson. C'est un band féministe mais qui chante des chansons d'amour. Et de
chevaux.
Et de chevaux. Ben, le titre du groupe est tiré de l'histoire. Ce que je trouvais que, disons, la marque Alexis O'Hara était un peu dilué, tu sais, il y a comme tellement de choses que c'est difficile de savoir. Mm-hmm. Mon branding est comme pas très à point, tu sais. Donc pour ce projet qui est très vulnérable, qui est très joli, qui est pas une joke du tout, mm-hmm. Je voulais essayer de trouver un nom pour le groupe et je cherchais une héroïne dans l'histoire qui était peut-être moins célébrée qu'elle aurait dû l'être. Et j'ai tombé sur l'histoire de Kutulun. C'est une guerrière dans l'ère mongole qui était la nièce de Kublai Khan. Et elle était l'alliée principale ou la confidente principale de son père, qui était un leader de tribu nomade mongole. Et elle était lutteuse. Et elle disait qu'elle se marierait. Donc, quand les gens disaient « Tu ne te maries pas à Kutulun, mais qu'est-ce qui se passe? » Elle s'est dit qu'elle se marierait avec l'homme qui pourrait la vaincre dans un match de lutte. Et s'il perdait, il devait lui donner 100 chevaux. Et dans sa carrière, elle a accumulé 10 000 chevaux sans perdre un seul match. Et donc, en fait, j'ai trouvé que Kutulun c'est un peu mal commode comme nom. Donc, on a pris le nom 10,000 Horses.
L'histoire est fantastique aussi.
Ouais.
C'est beau.
Et c'est drôle parce que Geneviève Paquette, qui est une designer, elle a un label qui s'appelle Kazakh, très, très joli à Montréal. Elle m'a aidée avec la fabrication des œufs de la couvée. Et elle a passé pas mal de temps en Mongolie. Puis elle m'a dit, tu sais, en fait, la légende de Kutulun, il y a une trace qu'on sent dans la culture contemporaine mongole, et c'est mongolienne, et c'est le fait que le costume national des lutteurs inclut une espèce de veste boléro qui expose le torse. Donc, en fait, c'est pour qu'il n'y ait jamais de femmes qui puissent lutter. Et ça, ils l'ont
institué
en réaction après la mort de Kutulun. Il n'y a plus jamais une femme mongolienne qui a pu participer dans des matchs officiels de lutte.
Belle histoire. Alexis O'Hara, merci beaucoup d'être passé chez nous.
Merci à vous.
Bonne chance à toi.
Merci.
Somewhere it must still be last night. Somewhere I must still be the man. Wearing the pants, taking the chance to make the first move. Nothing to prove, nothing to prove. Just make us laugh. All that we have, all that we have left to do. Just me and you in this improbable sky, neath which I'll cry before.
Alors, c'est Alexis O'Hara que nous avons eu le plaisir, Gaétan, d'interviewer dans le cadre du Mois Multi, une artiste vraiment que moi, en tout cas, je connaissais peu et que j'ai découverte grâce au Mois Multi. Puis je t'avouerai que je suis très content de la diversité de son travail, puis de la sensibilité de son travail, puis de l'originalité de son travail.
Oui, c'est une artiste que je qualifierais d'extraordinaire au sens où elle incarne vraiment ce qu'on appelle la pratique interdisciplinaire. Mm-hmm. Donc, à la fois un travail qui exploite tout le potentiel du corps, qui exploite tout le potentiel de la voix, et puis un travail qui s'exprime dans le secteur des arts visuels. La couvée, c'est à la fois une installation, une œuvre visuelle, sonore, qui appelle la participation des spectateurs. Bon, dans notre blog, je dis que les spectateurs avaient le plaisir de s'installer à l'horizontale pour s'immerger
dans l'œuvre.
Oui, et puis cette notion d'immersion dans le domaine des arts contemporains, c'est toujours un peu mystérieux, mais il reste qu'on était là dans l'immersion totale de l'univers utérin, je vais dire ça comme ça, et oui. c'est un projet qui...
C'était voulu comme ça aussi.
Oui, projet qui est vraiment magnifique.
Ben écoutez, c'était Alexis O'Hara. La semaine prochaine, ben nous recevrons Jean-François Laporte dans un tout autre tout autre registre. Mais je veux aussi vous rappeler que la Croche-Oreille, comme l'ensemble des émissions de CKRL, cette programmation de CKRL, cette programmation originale, comme ce que vous avez pu entendre ce soir, ben elle vous est permise grâce à cette radio qui existe depuis 1973, mais qui, à chaque année, doit reconquérir son auditoire, notamment par le Radioton. Le Radioton, qui est un événement, une sorte de sprint de financement, qui va se passer dans la fin de semaine du 27, 28 et 29 mars, donc dans quelques semaines, et au cours de laquelle vous aurez donc l'occasion de souscrire, de supporter, puis d'avoir toutes sortes de prix en retour de vos contributions. Mais vous pouvez, dès aujourd'hui, souscrire, faire un pré-don, si je peux dire, un don pré-radioton de 20$ et plus ou une carte de main. Et ceci va vous permettre d'être admissible pour un tirage qui va avoir lieu le 27 mars à 17h. Et puis là, on ne sait pas encore trop ce qu'on va pouvoir gagner. Mais si vous donnez maintenant, ben vous êtes admissible pour ce tirage qui aura lieu le 27 mars à 17h. Vous pouvez passer ici à la station au 405 3e Avenue ou encore aller sur le site de CKRL, au site sécurisé PayPal sur ckrl.qc.ca. Il y a un onglet là, qui s'appelle « Faire un don » et vous pouvez donc utiliser cet onglet-là pour faire votre pré-souscription parce que le Radioton, bien évidemment, il va se passer pendant cette grande fin de semaine avec toutes sortes d'artistes, un paquet de monde qui va passer à la station. C'est toujours un événement. Moi, ça fait des années que je suis ça, que je suis un maniaque du Radioton, parce que c'est l'occasion d'entendre du monde qui aime cette station, puis qui viennent en parler, puis qui nous font l'aimer davantage. Alors, c'était mon petit pitch, Gaétan, pour...
C'est bien, Radioton. Jean-Pierre, c'est ça. C'est un rappel qui est crucial, qui est fondamental pour la radio. Oui. Et peut-être se rappeler le contenu de l'émission la semaine prochaine. Oui. Alors, il y a notre collègue John qui a été absent quelques semaines parce qu'il travaillait à l'extérieur. Alors, John Blouin qui a fait une entrevue avec Radouane Moumné, qui est le grand architecte du projet Jérusalem in My Heart, qui était présenté dans le cadre du Mois Multi au Cercle il y a quelques semaines. Alors, John a fait une entrevue avec lui, les gens de son équipe. Il nous présente un peu la philosophie de travail de ce performeur, là aussi, qui allie la musique, l'art sonore et la vidéo, le travail vidéo en temps réel. Alors, un travail qui a été très apprécié par les gens de Québec. Et ça va être en première partie ou en deuxième. Bon, on n'a pas encore décidé, mais on verra comment on fait ça.
Rappelez cependant que vous pouvez toujours écouter nos archives que Gaétan se fait un devoir de mettre en onde sur le site www.lacrocheoreille.com. www.wordpress.com où vous allez retrouver toutes nos archives de l'émission. Si vous voulez réentendre tel ou tel artiste, tout est là. Gaétan met ça à jour à chaque semaine. Et si vous voulez nous écrire, ben, il y a un site, on a une adresse courriel qui s'appelle crocheoreille@gmail.com. Puis vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez ou faire tous les commentaires que vous voulez sur l'émission que vous écoutez ce soir.
Jean-Pierre, en terminant, deuxième partie de l'émission la semaine prochaine, oui, avec Jean-François Laporte, qui présentait ce mercredi dernier une performance sonore dans le cadre du Mois Multi. C'était parmi les derniers spectacles. Mm-hmm. Jean-François Laporte, qui est arrivé à Québec avec ses instruments inventés et animés en temps réel avec les technologies d'aujourd'hui, donc ordinateur, iPad et téléphone, tout ce que vous voulez. Donc,
et qu'on a eu l'occasion de rencontrer tous les deux.
Tout
aussi,
à fait, puis qu'on va recevoir en entrevue.
Parfait. Alors, on vous dit à la semaine prochaine. Restez en onde sur CKRL et nous serons de retour dimanche prochain. C'était Gaétan Gostin, Jean-Pierre Gay avec vous. On vous dit bonne nuit. Bye-bye.
Téléchargez la croche-oreille sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique.